Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, grand bien vous fasse, cuisine. Pour le plaisir ou par contrainte, la cuisine reste l'un des rituels fondamentaux de notre vie quotidienne. Nous recevons une personnalité qui éprouve une immense joie quand elle cuisine pour les autres. Pour cette ancienne dirigeante de presse, c'est une activité à la fois source de plaisir et de développement personnel. Perla Servan-Schreiber nous livre sa vision de la cuisine et quelques secrets gourmands puisés dans sa bible culinaire qui vient de paraître. Et puis nous verrons également comment manger bon et local avec le hors-série du Parisien Balade Gourmande en compagnie de son directeur éditorial, le bon vivant Laurent Guez. Et avec nous également, juste pour le plaisir, Flavia Mazzolin-Salvi de Psychologie Magazine. Ce matin, venez partager votre joie de cuisiner. Dites-nous quelles sont les recettes de votre vie. Et puis dites-nous également quelles sont vos adresses pour manger bon et local dans votre région. Êtes-vous par exemple un adepte des AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ces AMAP qui établissent un lien direct entre exploitants agricoles et consommateurs. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alors je ne sais pas si elle aime cuisiner, en tout cas elle aime chroniquer le jeudi dans Grand Bien Vous Fasse. Tout à l'heure vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Grand bien vous fasse cuisine ce matin avec trois invités. Bonjour Perla Servan-Schreiber.
Bonjour Ali le gourmand.
Alors oui, vous me connaissez bien, avec votre mari Jean-Louis, vous avez créé le magazine Psychologie en 1998 et vous avez lancé Cuisine Magazine dans les années 1970. Vous avez publié de nombreux livres, dernier opus qui vient de paraître chez Flammarion, Les recettes de ma vie, 300 recettes et 300 récits. Vous teniez absolument à partager et à transmettre votre bonheur de cuisiner. Et on le comprend quand on lit votre livre. J'ai mis plein de post-it, on pourra pas évoquer toutes les recettes, hélas. Mais voilà, ce besoin de transmission vous est chevillé au corps chez vous. Hein.
Écoutez, tant mieux si vous avez mis plein de post-it, parce que ma règle d'or en cuisine, c'est il n'y a que le trop qui soit assez. D'accord ? Donc, je suis une militante de la cuisine. Non, ce plaisir... J'éprouve le besoin de le partager et surtout, je considère que cette place dans les familles ne peut pas rester vacante. On est à une époque où on a la chance de bénéficier de l'industrie alimentaire, des livraisons, on peut manger indien, thaï, français, en fait, voilà. Mais... D'accord. Sauf, malheureusement, ceux pour qui c'est beaucoup trop cher et pour qui la cuisine est encore une contrainte. Mais, il me semble que cette place doit être occupée par un des membres de la famille, l'homme, la femme, les enfants, peu importe, mais que ce plaisir-là, ce partage-là et ce lien familial et social doit être sauvegardé.
Alors, il ne s'agit pas d'un livre de cuisine désincarné. Vous tissez des liens entre des récits de vie et vos recettes. Ce sont des recettes qui vous ont accompagné tout au long de votre existence.
Alors, oui, j'ai un gros défaut dans la vie, c'est que je suis fidèle. Alors, je suis fidèle également à mes recettes, mais la magie des recettes, et vous le savez tous ici, et certainement une grande partie de nos auditeurs ce matin, c'est qu'elles se transforment. Comme nous, une recette, c'est vivant. Ça se transforme avec les informations que nous recueillons, le fait qu'on ait envie de manger plus locavore, qu'on ait envie de manger plus bio, qu'on ait envie de mettre moins de sucre, parce que finalement, c'est très bien avec moins de sucre. Donc, tout ça se transforme. Donc, ce sont des choses que je fais depuis longtemps pour la plupart, d'autres plus récemment, mais qui se sont transformées et m'ont accompagnée.
Flavia Mazzolin-Salvi, bonjour. Vous êtes donc journaliste à Psychologie Magazine. Vous connaissez bien Perla Servan-Schreiber. Vous avez eu la chance de goûter sa cuisine.
Oui, c'est vraiment une chance. Alors c'est vrai que j'ai un souvenir qui me vient, c'est les petits gâteaux pour le thé que Perla apportait aux conférences de direction le lundi, quand Jean-Louis et Perla donc dirigeaient le journal Psychologie Magazine, et qu'on avait découvert, mais bien avant la mode, les petits financiers au thé matcha qui nous ont marqués. Et vraiment, je ne parle pas des séminaires. Donc, dans le sud de la France, où là, il y avait l'entrée, le plat, le dessert. Et on était, mais, émerveillés. C'était un délice renouvelé. Et, quand le premier livre de cuisine de Perla est sorti, on s'est dit, chouette, on va pouvoir faire presque pareil.
Mais ce n'est pas une cuisine sophistiquée.
Non, c'est une cuisine, pour moi, c'est trois mots. C'est saveur, subtilité des goûts, accessibilité et précision. Parce que moi, je suis une gourmande et cuisinière, et le nombre de recettes qui déçoivent parce qu'elles manquent de précision, c'est-à-dire que ce qui est génial dans la cuisine de Perla, et j'ai vraiment testé ces recettes sur plusieurs livres,
bienvenue au club, sucrés,
voilà, hein, vous en avez fait l'expérience, c'est que ce que j'ai goûté, si je suis vraiment bien la recette avec les bons produits, par exemple la précision des contenants, telle casserole de 22 cm, le moule, et ça a un effet sur la cuisson, donc sur la saveur, et donc on a des recettes qui sont simples, accessibles et parfaitement ajustées, dosées, on n'est jamais déçu.
Alors Perla Savran-Schreiber, vous pratiquez et vous militez donc pour une cuisine simple, authentique et généreuse, c'est une cuisine qui puise ses sources à Fès, au Maroc, où vous êtes né. C'était, vous l'écrivez dans votre livre, une cuisine familiale à la fois sacrée, pléthorique et raffinée.
C'est vrai. C'est vrai, c'est le souvenir que j'en ai. Dans une famille pourtant modeste, à table, nous avions le sentiment d'être riches. Et ça, c'était quelque chose qui me marquait énormément. Et ma mère était une magnifique cuisinière et pâtissière. Et les grands moments de joie, parce que par ailleurs c'était pas très joyeux, les grands moments de joie pour nous, c'était à table. Et ça, j'ai gardé ça, et je suis, je crois, arrivée à le recréer dans tous mes univers, professionnels, amicaux, familial. Et je crois vous l'avoir déjà dit ici, pardon si je me répète, mais j'ai épousé un homme il y a 33 ans maintenant qui, lui, avait eu la bonne idée déjà d'être mariée une première fois et d'avoir fait 4 enfants. Et nous sommes aujourd'hui à la tête de 8 petits-enfants. Et je crois que je ne serais pas parvenue à créer ce ciment qu'exige une famille recomposée si je n'avais pas cette obsession de la cuisine, de la gourmandise et de la générosité.
Bonjour Laurent Guez.
Bonjour Annie.
Vous êtes le directeur éditorial du hors-série du Parisien Balade Gourmande, avec un premier numéro intitulé « Manger bon et local en Ile-de-France ». On évoquera tout à l'heure le locavorisme dans cette région et partout en France. Vous êtes également critique gastronomique aux Échos. Vous défendez le même type de cuisine que Perla Savran-Schreiber ?
Je suis fasciné par ce que j'entends de Perla. D'abord parce que quand elle parle, c'est un poème qui sort de sa bouche. Et aussi parce que pour ceux qui les ont déjà rencontrés ou qui les ont vus, Jean-Louis et Perla sont aussi incarnent une forme d'élégance, mais aussi peut-être d'ascétisme.
Joyeux.
Oui, mais en même temps, ils ont une taille mannequin d'adolescents, tous les deux. Et la phrase de Perla sur « trop, ce n'est pas assez » me fascine, moi qui ai du mal avec ma ligne, de voir comment on peut aimer la profusion, la bonne chair, comme on disait avant, sans en avoir de grosse chair comme ça.
Et pourtant, vous mangez, vous êtes gourmand, parce que c'est un livre gourmand, c'est pas un livre d'assiette. C'est un livre où il y a des recettes d'une grande simplicité, très gourmande.
Mais
comment vous arrivez à concilier justement cette sveltesse et la gourmandise?
Ça, c'est très aimable.
C'était ma question.
C'était la question de Laurent Guez.
Mon mari est un ascète. Non. Jean-Louis est un ascète. Moi, pas du tout. Oui. Moi, pas du tout. Vous savez que quand on cuisine, il vaut mieux goûter. Puis, alors, des fois, on goûte un peu trop. Enfin, bon, vous connaissez le truc. Donc, moi, ce qui me motive dans ma cuisine, c'est d'abord que j'aime voyager dans l'assiette. Puis, vous savez, avec l'âge, on aime de moins en moins bouger et voyager. Alors, heureusement, nous voyageons encore un peu, mais beaucoup moins qu'autrefois. Mais voyager dans son assiette et manger un soir thaï, un soir italien, il me manque la cuisine corse, Flavia. Non, mais le prochain livre, je vous promets, il y aura des recettes corse,
chapitre insulaire,
inspirées par Flavia. Et ma deuxième règle de vie en cuisine, à part la gourmandise, c'est de faire en sorte que la santé et la gourmandise dialoguent pour faire la fête et non pas pour se faire la tête. D'accord ?
Qu'est-ce que vous avez transmis à votre petit-fils Arthur, c'est ça ?
Oui, Arthur.
Qui suit des études dans une prestigieuse école, l'école hôtelière de Lausanne. Qu'est-ce que vous lui avez transmis ? C'est à cause de vous qu'il a suivi cette voie ?
Oui, je crois que c'est à lui qu'il faut demander ça. Il a l'air de me rendre responsable de son destin, si je puis dire. Et aujourd'hui, il a créé, dirigé pour un très grand chef, Thierry Marx, un restaurant qui s'appelle Marxito. Et il le dirige magnifiquement bien.
Mais pourquoi c'est important pour vous cette transmission ? Et pourquoi souvent cette transmission, elle se fait de petit-fils ou petite-fille à grands-parents ? Comment vous l'expliquez que ça se passe comme ça ?
Je suis d'accord avec vous parce que les chefs, quand ils parlent de l'influence d'une personnalité, ils parlent rarement de leur mère, mais toujours de leur grand-mère. C'est tout à fait intéressant.
Flavia Mazelin-Salvi.
Oui, moi aussi, c'est ma grand-mère qui m'a donné le goût de la cuisine. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais quand je fais certaines recettes, des gnocchi, par exemple, je la revois, je vois ses mains rouler la pâte sur la râpe. Et c'est merveilleux. Ça convoque des souvenirs, des émotions subtiles, mélange de joie, de nostalgie, un peu de tristesse, de gourmandise.
Et c'est des
vraiment...
sensations. Ouais.
Mais oui, c'est en 3D.
Et Perla Savant-Schreiber, vous nous avez amené un pain maghrébin, un pain rond qui s'appelle la kessra, qui sent, vous le confirmerez Flavia et Laurent, absolument merveilleux. Et immédiatement, c'est 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, chez ma grand-mère qui préparait le même pain et ça convoque évidemment les mêmes sentiments, les mêmes émotions. On va le goûter tout à l'heure pour voir si ça a le même goût. Je pense que ça aura à peu près le même goût.
Mais je pense que votre grand-mère se levait également à 5h30 du matin, ce que j'ai fait ce matin.
Merci.
N'est-ce pas ? Non, mais je me lève toujours à peu près à cette heure-là. Voilà, parce que c'est le parfum. Quand ça cuit, quand ça sort du four, mais quand j'étais petite, on les faisait pas cuire à la maison parce que nous n'avions que des braseros. Il y avait pas de gazinière, il y avait pas de four, il y avait rien à la maison. Et donc, on le portait au four du quartier. Et quand il revenait, il embaumait la maison.
Laurent Guez.
Non, c'est intéressant le pain, parce que je pense que rares sont les auditeurs qui nous écoutent à faire leur pain. Ça m'arrive parfois aussi de m'y atteler, notamment quand les week-ends sont libres. Et c'est une satisfaction toute particulière. Je pense que la pâte, le fait de la voir vivre, lever, et puis les parfums du pain qui cuit, et quand on ouvre le four, c'est difficile, c'est très difficile à faire. Il y a des techniques incroyables, il faut ouvrir le four. Enfin, pour faire du pain, je veux dire, du pain
mais
comme
ça
on
peut
le fait
être
en
très
France.
Simple. Ça,
mais
c'est
une satisfaction exceptionnelle, je trouve, de manger son propre pain.
Mais c'est sacré, le pain, quand même.
Vous nous donnerez la recette tout à l'heure, Perla Savant-Schreiber, de cette kessra. Les tables ouvertes ce matin dans Grand Main vous fasse. Dites-nous l'importance de la cuisine dans votre vie. Quelles sont les recettes qui comptent pour vous? Et puis dites-nous comment vous y prenez pour manger bon et local dans votre région. 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main vous fasse. Claire Destacan, Clara Marlio et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier et je vous propose d'écouter un titre de 1959. Cette année-là naissait le chanteur des Cure Robert Smith et disparaissait la chanteuse Billie Holiday. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plaises à mon père, tu plaises à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
Salade de fruits et Julia Foyce qui vient d'entrer dans le studio et qui se shoote au pain préparé par notre invité.
Bon. Moi, je suis un ventre, à dit tout ça. Donc, voilà, on veut me pécho dans la
Je pense que je vais le déplacer, le pain. Je vais le mettre de mon côté.
Non, non, merci beaucoup, je m'en vais avec.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse sur France Inter.
10h23, grand bien vous fasse cuisine ce matin avec Perla Savant-Schreiber qui publie Les recettes de ma vie, la journaliste de Psychologie Magazine Flavia Mazzona-Salvi et Laurent Guez, directeur éditorial du hors-série du Parisien Balade gourmande, intitulée Manger bon et local en Île-de-France. Alors pour vous, Perla Savant-Schreiber, cuisiner c'est un art noble qui exige de l'humilité.
Ah, ça c'est sûr. Quand on peut avoir réussi un plat 18 fois, et puis, un jour, il sera trop salé, moins cuit, trop cuit, enfin, voilà. Et ça demande à se réinventer à chaque fois. Et puis, il y a aussi que, aujourd'hui, je n'étonnerai personne en disant que les gens sont pressés, que nous avons une culture de la rapidité et de l'impatience contre laquelle, il me semble, il faudrait qu'on fasse très attention. Et que quand on veut un œuf dur, parce que ça peut arriver d'avoir envie d'un œuf dur, mais un œuf dur c'est 10 minutes, que vous soyez pressé ou pas. Au bout de 3 minutes, vous n'aurez pas un œuf dur. Donc l'œuf aura toujours raison sur vous.
C'est une forme de méditation la cuisine.
C'est pour moi en tout cas, hein, pour moi c'est une forme de méditation et Laurent Guez me dit que pour lui aussi, il ressent ça. Parce que si vous n'êtes pas, je crois, totalement à ce que vous faites... totalement à ce que vous faites, il y a quelque chose mais d'indicible qui ne passe pas ensuite dans le plat. Si une de mes amies très chères que j'ai perdue, hélas, Lise, me disait « Mais toi, tu as le goût dans la main. » Hein ? Elle le disait comme ça à sa manière. Mais en fait, c'est, je crois, parce que je suis totalement dans ce que je fais.
Laurent Guez.
C'est vrai que c'est, il y a un côté méditatif, mais en fait, c'est tellement complet pour ceux qui aiment ça, évidemment. C'est-à-dire que c'est d'abord le contact avec un produit qui a une histoire et un lien avec la nature. C'est extrêmement important. Quand on a un légume en main, on a une espèce de prolongement de la nature et de l'histoire d'un produit. On a aussi, un objet qui est un instrument, un outil. Et il y a un côté technique qui est extrêmement agréable. Et puis, il y a aussi un lien avec ceux qui vont manger, c'est-à-dire que on aime par avance celui qui va déguster le plat. Et tout ça dans un moment peut-être où on peut être seul, en tout cas, c'est mon cas, quand je suis en cuisine, j'aime bien être tout seul. Et donc, effectivement, il y a un moment qui est complètement privilégié. quand on fait un métier un peu intellectuel, c'est une activité là, qui est vraiment très, très, très différente et très complémentaire.
Et si on a coupé son téléphone portable, c'est encore mieux.
Flavia Mazelin-Salvi, un de vos livres de chevet, c'est « Instructions aux cuisiniers zen » de Dogen. C'est publié dans la belle édition chez Le Promeneur.
Oui, c'est un...
Pourquoi vous l'offrez autant, ce livre ?
Parce que c'est un petit traité zen, très simple, accessible à tous, et de la spiritualité de la vie quotidienne. Et c'est l'essence du zen qui est contenue dans le livre, parce que dans cette tradition bouddhiste, le tenzo, le cuisinier, qui est la deuxième personne la plus importante après l'abbé, incarne tout ce que le zen préconise en acte de présence à soi et à ce que l'on fait, à l'humilité dont parlait Perla requise, et en même temps une humilité mêlée de gratitude face on vient d'en parler également, quand on manipule des légumes, puisque les zen sont végétariens, on a à la fois toute l'histoire, effectivement, toute la provenance de ce légume, les éléments qui sont convoqués, vous en parliez, et aussi ce sentiment de gratitude, on va le transformer, on va en faire quelque chose. Et Dogen dit, quand tu as cette feuille de chou dans les mains, fais-en un temple de Bouddha. Ne porte pas un regard grossier sur une nourriture dite grossière. Il n'y a rien de grossier. Donc on doit admirer chaque petit élément ordinaire.
Petit ordinaire.
Et voilà, tout est contenu dans cette position juste entre concentration, présence à soi-même et humilité.
Perla Sorrent-Schreiber, c'est également un livre de chevet pour vous, ces instructions aux cuisiniers zen de Dogen.
Ma reconnaissance, entre autres, à Flavia et qui sera éternelle, c'est qu'elle m'a fait découvrir, il y a, j'ai aucune notion du temps, peut-être une dizaine d'années, ce petit opus qui ne me quitte pas et que j'ai à mon tour offert un nombre incalculable de fois. Voilà.
Laurent Guez.
Non, je voulais juste dire que dans l'Égypte antique, le hiéroglyphe du mot manger, c'est le même que celui qui veut dire parler et qui veut dire aimer. Et je trouve ça magnifique.
Ah. En fait. Ah. Ça, c'est magnifique.
Le bon pain, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Écoutez, c'est ça que je veux, hein, que ça craque sous la dent, quoi. Hein.
Le croûte-croûte, le croûte-croûte, je dis ça comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire il faut le fameux croustillant, le cric-cric.
Une baguette, voilà. Passez une bonne journée.
Perla Sorrent-Schreiber, comme beaucoup, ce bruit vous fait craquer. Puis plus généralement, les bruits de la cuisine suscitent chez vous le désir. C'est important, hein, cette musicalité de la cuisine.
Non, mais en plus, c'est un... Joël Robuchon disait toujours, on cuisine à l'oreille, chez nous. Parce que quand on va chez Robuchon, et ça n'est... C'est encore vrai, d'ailleurs, aujourd'hui, ils nous servent des tout petits pains, comme ça, comme une mini baguette de je sais pas combien, 10 cm, très craquante, et quand ça sort du four... Le bruit qu'elle fait en passant du 200 degrés à la température de la pièce lui dit si la cuisson est parfaite. Donc, je n'ai pas du tout ce talent et je dis ça en toute modestie, mais quand il m'a dit ça, du coup, l'attention est de mes oreilles, hein, est devenue tout à fait essentielle. Et chez moi, il y a quelque chose de très singulier, c'est que ma cuisine et mon bureau communiquent par une porte que je suis la seule à pouvoir utiliser. Et combien de compotes qui ont failli brûler, j'ai sauvé grâce à l'odorat, mais combien également d'autres plats j'ai sauvé grâce à l'oreille.
Alors, je ne sais pas si vous voulez mourir de plaisir, Perla Sorrent-Schreiber, en tout cas, vous voulez nourrir de plaisir.
Oui.
C'est une phrase que vous utilisez souvent, ça, nourrir de plaisir.
Oui, parce que c'est le titre d'un de mes essais que j'ai publié en 96. Et en fait, c'est une phrase qui me revient comme ça assez souvent. Et c'est vrai que je l'ai utilisée dans cette Bible que vous avez la gentillesse d'annoncer ce matin. Et il y a là quelque chose de... Voilà, une racine. Et puis je voulais aussi dire et saluer combien aujourd'hui, le fait que la cuisine soit quand même à la mode, que les chefs soient des stars, ramène quand même des jeunes au fourneau. Et ça, c'est pour moi un signe formidable. Mais je crois aussi que c'est pour lutter contre le virtuel. Comme vous le disiez tous les deux, et notamment là tout de suite Flavia, toucher des légumes, c'est toucher la terre. Hein. On n'est pas dans les claviers.
Laurent Guèze, il y a des chefs de ce genre hein, dans votre hors-série Balade gourmande, hein, le premier numéro vient de sortir.
Oui, la cuisine est à la mode, mais en même temps, jamais on a été aussi inquiet vis-à-vis de ce que l'on mange. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé cette collection, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire, et d'ailleurs on en lancera d'autres choses aux Parisiens, il y a beaucoup à dire sur comment mieux manger d'un point de vue cuisine, mais aussi comment mieux manger d'un point de vue approvisionnement. Et je pense que on a tous besoin maintenant de parfaire notre culture sur, sans jeu de mots, sur les produits qui poussent ou qui sont élevés ou qui sont fabriqués dans des usines, parce qu'il y en a aussi, nos auditeurs, nos lecteurs achètent aussi des produits transformés, beaucoup, beaucoup trop.
Ultra transformés.
Et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de peur à écarter aussi,
voilà.
Parce qu'on a tendance à en avoir parfois trop.
Oui, voilà.
Donc il faut essayer d'enlever de l'anxiété, mais de donner de l'information.
Oui.
Bonjour Lucie, bienvenue.
Oui, buongiorno.
Buongiorno. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Julia.
J'attends la suite.
Je suis toujours restée sicilienne. J'ai énormément voyagé. J'ai eu plein d'étudiants à la maison qui m'ont invité chez eux, en Inde, au Maroc, enfin un peu partout. Et j'adore cuisiner. C'est un gros problème, parce que le problème, c'est que je suis toute seule. Ma fille est en partie. Donc, je foisonne toujours d'idées, j'invente. Et du coup, j'en fais profiter quelques voisins qui travaillent, eux. Donc, quand je cuisine, voilà, je leur dis, écoute, je vais préparer ça, c'est un plat indien, c'est un peu piquant. Si tu veux, tu montes avec une assiette ou un bol, et voilà, puis ils repartent avec tout ce qu'il faut pour... c'est tout chaud, parfois ils mangent même là s'ils sont pressés. Voilà, et ben je suis ravie parce que chez moi en Sicile, enfin c'est la Méditerranée quoi. Et moi j'ai toujours eu cette habitude, un peu trop même. Il y en a qui me disent mais vraiment c'est moi je pourrais pas faire ça, mais moi je suis comme ça et j'adore. J'adore vraiment partager ce que
Lucie,
je fais.
Lucie, c'est jamais trop parce que bah tiens, je cite une citation de Shakespeare dans le livre de Perla, plus je te donne, plus il me reste. C'est une citation de Roméo et Juliette. Donc vous ne faites jamais trop, hein, n'est-ce pas, Père Lassavant-Schreiber ?
Non, jamais trop. Et puis merci infiniment de votre témoignage, parce que une des vertus pour moi, pour la cuisine, et dans ce temps où il y a tant de gens qui vivent seuls, pour mille raisons, c'est qu'en fait, quand on cuisine, on n'est plus jamais seul.
Merci beaucoup Lucie de nous avoir appelé. Tiens, il y a 10 commandements dans votre livre de cuisine, Perla Savant-Schreiber. 10 commandements pour découvrir le bonheur de cuisiner. Je les cite ou on y va tous les deux ?
Allez-y.
Exigeant, allez-y. Chic, informé, organisé, précis, attentif, anti-routine, créatif, concentré, sage. Sage ?
Oui, sage parce que, comme on le disait il y a quelques instants, quand on est seul dans sa cuisine, on est infiniment plus concentré. Moi, j'essaye de ne pas avoir le téléphone portable. Enfin, tout ce qui est, et même quand je ne dois y passer qu'un quart d'heure, hein, voilà. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, je tiens beaucoup au chic. Mmh. Je tiens au chic parce que je m'y prépare avec un tablier blanc que j'aime énormément. Voilà, j'ai des tabliers en lin blanc parce que moi je les aime comme ça, point. Mais je trouve que quand un judoka se prépare à jouer au judo, eh bien il a une tenue et déjà son mental est préparé à ça.
Peut-être une première recette avant d'écouter Julia Foïs, une recette qu'on peut se préparer à midi, c'est la salade de pommes de terre aux herbes folles. Spéciale dédicace à Claire Destacan, notre collaboratrice, qui l'a choisie. On peut la détailler rapidement, cette
formidable,
recette.
Formidable, je l'ai faite hier soir.
Ah bah alors dites-moi, donc qu'est-ce qu'on prend dans cette salade de pommes de terre
alors
aux herbes folles?
On choisit la pomme de terre, hein, ça c'est, Laurent ne pourra pas dire le contraire, on choisit
Charlotte
la pomme
Roosevelt.
De terre, et celle-là c'est la Charlotte, mm-hmm. Idéalement c'est la Charlotte, parce qu'elle est ferme et qu'elle cuit très rapidement, d'ailleurs en 20 minutes. Et alors qu'elle est encore tiède, il faut l'arroser d'huile d'olive généreusement et de vinaigre de vin, mais là par contre parcimonieusement, et ensuite prendre tout ce que vous aimez comme herbe, tout ce que vous aimez comme herbe, les mélanger.
Cerfeuil, aneth.
Voilà, cerfeuil, aneth, persil plat,
estragon,
enfin tout ce qu'on veut. Et des échalotes que l'on aura fait macérer auparavant dans l'huile d'olive parce qu'elles deviennent plus douces et l'huile est plus parfumée.
Voilà.
Et régalez-vous.
Salade de pommes de terre aux herbes folles, rapide à faire et absolument goûteuse. Allez, il est temps de retrouver Julia Foyce, pas son genre.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est pas un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui, 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 oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Julia Foyce, chaque semaine, vous nous amenez dans les aléas du genre, les virages du féminin, les méandres du masculin. Aujourd'hui, vous le faites en transport en commun, dans des wagons sans couillons, c'est ça. Wagons sans couillons. Alors, c'est le nom de la nouvelle campagne lancée ce mois-ci par Oser le féminisme. Il y a un hashtag, un mot dièse, pour que les internautes puissent témoigner sur Twitter. Et puis, il y a également un questionnaire en ligne à remplir sur le site de l'association. L'idée, c'est de prendre la mesure réelle du harcèlement sexiste et des violences sexuelles dans le métro ou dans le bus.
Et je vous donne le programme. Ça démarre aux regards insistants, aux questions intrusives, aux sifflements intempestifs et autres tébonnes qui, je le précise, dans ce contexte-là, non, ne sont pas un compliment, pas flatteuse non plus, la main au cul. À la dixième, tu as surtout l'impression d'être vaguement un essuie-tout. Quant à celui qui te suit à cette heure-là, dans ce couloir-là, sur des dizaines de mètres alors qu'il n'y a personne, ou que tout le monde regarde ses pieds, ce qui revient à peu près au même, ça n'est pas un dragueur un peu relou et il le sait très bien. Celui qui te dit « suce-moi, salope » n'a pas exactement envie de te plaire en fait, ni même d'avoir un rapport bucco-génital avec toi. Ce qu'il te dit à ce moment-là s'apparente plutôt à un crachat au visage, voyez. Comme celui qui se frotte contre toi à l'heure de pointe, ça n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un flirt. Et lui n'est pas, comme diraient certaines, en manque d'amour ou en misère sexuelle manifeste. On est sur une toute autre logique, une toute autre planète. Et c'est bien ça que cette campagne d'Oser le féminisme combat. Dans le logiciel du dragueur, même relou, même pénible, tu as toujours la possibilité de dire non, tu as ta porte de sortie. Dans celui du harceleur, ton non n'existe pas, il te le dénie, et c'est bien de ça qu'il jouit. Alors quand calé sur le siège d'en face, il glissera sa main dans sa braguette, tu la chercheras, ta porte de sortie, mais avec ce monde compact, agglutiné autour de toi, tu ne la trouveras pas, du moins pas tout de suite. Et pendant ce laps de temps, il aura réussi à se masturber devant toi, toi, contrainte et oppressée, et ça, il aura adoré. Toute la différence est là, dans ce choix qu'on laisse à l'autre ou pas. Et ah, attendez, on me dit dans le casque, not all men. Ah ben oui, évidemment, not all men, formule toute faite, formule réflexe, hashtag qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux à peine un cas de violence sexuelle dénoncé. C'est parfait pour prendre du temps d'antenne, de l'énergie, du temps de parole et rassurer tout le monde. Alors j'y vais. Non, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. En revanche, les agresseurs, eux, sont en écrasante majorité des hommes. Point. C'est bon ? Je peux continuer? Ah non, non, pardon. On vient de me dire les hommes aussi. Ah bah oui, ça fait 2 minutes que je parle de violences faites aux femmes. Faudrait pas oublier les hommes non plus, et surtout pas que les hommes aussi. Après, le not all men, c'est la deuxième carte maîtresse abattue en général assez vite pour éviter de parler du fond. Oui, les hommes aussi sont victimes de harcèlement, de viol ou d'agression. Plutôt quand ils sont jeunes, plutôt pas très hétéro, plutôt globalement en situation de domination, mais à une écrasante majorité, et là encore pardon, mais les victimes sont en général des femmes. On vous les donnerait bien, nos viols, vraiment. Et on adore vous voir aussi attachés tout à coup à des questions d'égalité, mais c'est comme ça. 100% des femmes ont déjà été victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexiste dans les transports en commun. 3 sur 4 adaptent donc leur comportement ou leur tenue en conséquence, ce qui veut dire raser les murs, marcher tête baissée ou l'oreille rivée à son smartphone en faisant semblant de téléphoner, ce qui signifie en clair, limitation de mouvement pour les unes, mainmise sur l'espace public pour les autres. C'est pas 9-9, ça fait même des millénaires que ça dure, c'est jusque-là. En 2019, parfois, on aura envie que ça change.
D'où cette campagne wagon sans couillon.
Oui, parce qu'il s'agit autant de rendre compte de l'ampleur du phénomène que d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place pour le contrer. Depuis un an, le délit d'outrage sexiste dans la rue ou les transports en commun existe. Plus de 700 contraventions ont pu être établies selon le dernier bilan, c'est très bien. Mais c'est très peu au regard des millions d'usagers qui prennent le métro ou le bus tous les jours. Il y a un début de prise de conscience, ça c'est incontestable, mais le budget et les effectifs ne suivent pas. En 2018, dans la foulée de Balance ton porc, les plaintes ont augmenté de 30%. Super. Sauf que la justice a du mal à y répondre, faute de moyens. Alors en attendant une vraie politique de prévention, de formation, d'éducation, de fond, les filles se débrouillent toutes seules comme des grandes. Magie des nouvelles technologies, je ne compte plus le nombre de vidéos de branlettes que j'ai pu voir passer sur Twitter ces derniers temps. Désormais, elles filment celui qui se masturbe devant elles. C'est ça leur porte de sortie, mais c'est aussi un bel outil pour prévenir les autres. Attention, ce mec-là, habillé comme ça, est actuellement sur cette ligne-là, et voilà ce qu'il fait. Ça pique un peu les yeux, c'est vrai, mais ça a le mérite d'être efficace. Cela dit, j'ai encore mieux vu sur Twitter il y a quelques jours ce message écrit en majuscule, il est collector pour moi. Ma cousine a tordu la bite d'un mec qui se branlait dans le métro, genre elle l'a attrapé, elle a tourné, elle a dit ça a fait craque, et moi pardon mais ça m'a fait rire.
En tout cas, ça coupe l'appétit. La chronique passe son genre à découvrir en vidéo sur l'appli France Inter. On va se redonner fin là, hein, après le disque, avec Perlas avant Schreiber. Dites-nous si vous mangez local et de saison, dites-nous quelles sont les recettes de votre vie, 01 45 24 7000. Demain, dans Passe son genre, Julia Foyce à 20h.
Le féminisme est-il devenu cool? On fête les 20 ans des chiennes de garde et on se rappelle que les chiennes de garde en prenaient tout le temps plein la poire et que là, Dior fait des t-shirts I am féministe. Donc on se demande ce qui s'est passé en fait. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Billy Eilish sur France Inter.
Simon, tu arrêtes de faire des boulettes, c'est péché.
Grand bien vous fasse.
Maman, arrête de me servir sans arrêt.
Sur France Inter.
10h44, grand bien vous fasse cuisine ce matin avec Perlas avant Schreiber qui publie Les recettes de ma vie, la journaliste de Psychologie Magazine Flavia Mazzolin-Salvi et Laurent Guez, directeur éditorial du hors-série du Parisien Balade Gourmande intitulé Manger bon et local en Ile-de-France. Et Olivier nous dit, punaise. Punaise,
elle est belle,
elle est sortie toute seule. Punaise, j'ai la dalle, arrêtez, j'ai faim, voilà.
Et on va continuer. Slash, Oli.
Non, mais bon, voilà, bah, c'est le cri du cœur aussi. Hein.
Oui, j'ai, moi je trouve que c'est
j'ai
bien.
Faim, du j'ai faim, et oui. Je vais continuer à avoir faim après cet extrait-là.
Moi, je suis d'origine algérienne, alors forcément, la gastronomie, et puis mon père est cuisinier, donc voilà, ça a toujours eu une place assez importante dans la famille, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une galette de pain, qu'on fait beaucoup en Algérie d'ailleurs, et dans ma famille. Alors, en Kabylie, on appelle ça haroum. Et moi, quand j'étais petite, on appelait ça le pain d'Algérie, parce que c'était celui qu'on mange particulièrement là-bas. C'est un pain qui est à la fois un petit peu croustillant et un petit peu dur en même temps. Donc, et quand il est bien fait, justement, c'est un savant mélange entre les deux. Parfois, ça se fait avec de l'huile d'olive, donc on sent aussi un petit peu l'odeur de l'huile d'olive. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ça peut avoir un parfum qui est un petit peu trop fort. Bah, ma mère, elle en faisait plusieurs et souvent, bah, il avait du mal à arriver entier jusqu'à la table. Du coup, moi, petite, en passant douce derrière ma mère pour essayer d'en prendre un petit morceau. Et s'il y avait un tableau de moi, ouais, ça serait celui-là en fait. Voilà.
Extrait de l'émission Les Bonnes Choses sur France Culture en 2018 avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Ça vous parle évidemment, Perla Servan-Schreiber, ce pain, hein, la kessra, qui vous enchante depuis l'enfance. C'est un pain rond et plat. Expliquez-nous un petit peu, vous nous avez amené une kessra.
Oui, alors
on a le droit de goûter ou pas?
Mais oui!
Allez-y,
mais
alors Julia, prenez un petit morceau.
Évidemment, vous avez le droit de critiquer.
Faites craquer le pain.
Vous avez le droit de critiquer. Regardez. Alors, on fait comment ce pain? C'est le pain le plus basique et le plus simple au monde. Hein, on utilise en principe de la farine blanche. Moi, je n'utilise pas de la farine blanche. J'utilise de la farine complète. Et on mélange la farine, la levure, le sel et l'eau à peine tiède. Moi, j'ai un robot, j'avoue que je ne pétris pas à la main. Donc, je fais tourner à vitesse moyenne. Et puis, c'est fini. Je forme le rond, la kessra, n'est-ce pas? Et je la laisse lever 40 minutes. Hein, en 40 minutes, c'est bon. Et elle continue curieusement de lever celle-ci à la cuisson. Et on la met à cuire à un four à 200. Et ça dure 25 minutes, une demi-heure. Voilà.
On a tous la bouche pleine. Et c'est aussi bon que du gâteau, hein, Julia.
Oui,
hein,
c'est délicieux.
Alors, bon, celle-là, comme je savais que je sortais dans le monde ce soir, chez France Inter, ouais, j'ai quand même mis un peu d'huile d'olive.
Non, enfin, c'est très, très bon.
Voilà, ça se sent, c'est très bon et c'est aussi beau
délicieux
que bon.
Oui, alors, très joli. Ouais.
Père Azaran-Schreiber, un bon tiers de votre livre est consacré au dessert.
Hein. Ah oui. Ça, c'est, vous savez, j'ai écrit un livre sur les desserts parce que d'abord je supporte pas cette espèce de manière de définitivement regarder le dessert avec frayeur, horreur ou je ne sais quoi. Ça fait partie des plaisirs d'un repas. On peut faire des desserts très légers, mais on peut en faire des plus costauds, hein. On peut en faire des plus costauds. Et moi, j'ai un grand plaisir à faire de la pâtisserie. Voilà.
Vous avez choisi, tiens, Flavia Mazelin-Salvi, la tarte au citron dans le livre de Flavia.
Oui,
de
la
Perla.
Tarte au citron exceptionnelle.
Mm-hmm. Exceptionnelle.
Voilà, ça, j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que c'est un de mes desserts préférés. Et je traque la perfection et dans les pâtisseries, au restaurant depuis des années. Et là, je suis sûre que c'est bonne pioche.
C'est quoi le secret, Perla, d'une bonne tarte
Alors,
au citron?
Alors, le secret, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et d'ailleurs,
quelle
je
modestie.
Le dis. Non, je le dis, c'est ce chef magnifique qui est à la retraite depuis longtemps et qui s'appelle Freddy Girardet, qui était chef à Lausanne, à Crissier exactement, qui était un grand ami de Robuchon. Et c'est chez lui que j'ai goûté cette tarte au citron et il a eu la générosité dans son livre de donner la recette de cette tarte au citron. Et le secret de cette tarte au citron, outre les proportions évidemment, parce que la tarte au citron, vous oscillez entre le flan collant, hein, vous êtes d'accord? Et puis l'espèce de carrière de sucre, n'est-ce pas? Voilà que vous sentez même plus le citron. Alors lui, il a trouvé évidemment outre les matières premières qui sont choisies, on l'a cuit avec le four entrouvert. Et là, ça prend sans devenir pâteux. Ça prend juste un petit peu.
Voilà le secret d'une bonne tarte au citron. Est-ce que vous êtes locavore, Perla Servan-Schreiber?
Alors, je suis locavore en saison parce que je suis extrêmement privilégiée. Depuis 2 ans, j'ai un potager.
Quelle chance.
Mais j'ai un potager pas à Paris, voilà. J'ai un potager en Provence et je reconnais que cet été, ça a été éblouissant.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un potager, Laurent Guèze. Vous publiez donc un hors-série du Parisien, Manger bon et local en Île-de-France. Rappelez-nous un peu les grands principes du locavorisme.
Oh, le lecavorisme, c'est un mot qui est pas très joli.
C'est pas
d'ailleurs.
Joli, non.
En fait, c'est le bon sens. C'est comment manger avant. C'est-à-dire qu'on mangeait principalement les produits qui étaient fabriqués, qui poussaient ou qui étaient élevés près de chez soi.
À moins de 100 km de chez soi.
Alors aujourd'hui, on va dire 100 km. Et encore, pour ce qui est possible, parce qu'il faut pas tomber dans le ridicule si on veut mettre de la cannelle. Il faut pas tomber dans le ridicule, mais faire autant qu'il est possible, prendre les bons produits près de chez soi, ça paraît un formidable bon sens à tout point de vue, parce qu'il y a une espèce de traçabilité, on sait qui produit, parce que évidemment ça évite les frais de transport, et puis parce que manger local, c'est d'une certaine manière automatiquement manger de saison. Et ça, c'est peut-être même encore plus important que de manger local, c'est de manger de saison. C'est-à-dire que moi, je veux dire que manger local à 50 km, c'est pas toujours facile, mais manger des fraises françaises plutôt que des fraises qui viennent du bout du monde et hors saison, ça paraît être aujourd'hui ça va devenir une barbarie de ne pas le faire, je veux dire.
Oui. Voilà. Ça commence.
Alors c'est la chef américaine écolo Jessica Prentice qui a inventé le mot, je crois, locavorisme en 2005. Alors c'est une tendance de fond aujourd'hui chez les consommateurs et chez de nombreux cuisiniers professionnels.
Ça fait partie de cette révolution, à mon avis, qui commence à cristalliser depuis à peine un an, je dirais, en France en tout cas, et dans beaucoup de pays développés, puisque c'est pas toujours le cas dans d'autres régions du monde, mais qui est une prise de conscience de la responsabilité qu'on prend dans ce qu'on mange, que moi je veux toujours associer avec Perla, je dirais, au plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas une responsabilité comme un pince-somme, mais de réfléchir, de manger intelligemment, de savoir ce qu'on fait quand on achète un produit, quand on le consomme, pour sa santé, pour la santé de la planète, pour la santé du producteur, pour les revenus du producteur. Il y a toute une vision globale du manger intelligemment ou du mieux manger qui me paraît être aujourd'hui vraiment une prise de conscience.
Et Lévi-Strauss, qui a tout dit avant tout le monde, évidemment, il a dit, un aliment bon à manger doit être aussi un aliment bon à penser.
C'est ça. Si je prends juste un exemple de ce qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, un saumon fumé qu'on va acheter peut-être dans quelques semaines pour les fêtes, surtout si on n'a pas beaucoup de moyens, ça peut être dans le pire des cas, des œufs achetés en Écosse. Achetés en Norvège. Ça peut être un élevage en Écosse. Ça peut être de la nourriture produite au Chili, qui va nourrir les saumons. Ça va être peut-être un fumage en Pologne, où c'est moins cher, et un tranchage et emballage en Chine, où c'est moins cher. Et si vous voulez, la mondialisation de l'économie, quand on la ramène à cette tranche de saumon fumé, a un côté parfois absolument dingue.
Mais du coup, pardon, on propose quoi ? On propose quoi à ceux qui n'ont pas les moyens ? Parce que c'est quand même toujours un budget.
C'est-à-dire qu'en fait, manger plus cher, ça va être une nécessité. C'est-à-dire que, quels que soient ses moyens, la part, parce qu'on peut pas étendre son budget, mais la part qu'on consacre aujourd'hui à l'alimentation est trop faible, quels que soient ses moyens.
Oui.
Alors, évidemment, plus on est riche, plus on est bobo, plus c'est facile, et j'en ai tout à fait conscience, et j'ai bien compris la question qu'on partage aux Parisiens, vous en doutez. Mais, acheter au marché un saumon fumé qui a été fumé par le poissonnier, et surtout sur son petit panneau, on a compris qu'il avait acheté son saumon en pêche durable, et qu'on mange une tranche plutôt que trois ou quatre mauvaises tranches, je pense que c'est ça le chemin qu'on va tous prendre, quels que soient nos moyens.
Le premier acte locavore, c'est donc d'aller au marché, mais c'est aussi de s'inscrire dans une AMAP. Bonjour Cyril Martini.
Bonjour, bonjour Ali.
Vous êtes vice-président du réseau AMAP Midi-Pyrénées. Rappelez-nous ce qu'est une AMAP.
Exact. Alors une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se réunissent autour d'un paysan et qui s'engagent à acheter toute sa production pour une saison entière. Et la production ensuite est partagée donc entre tous ces citoyens.
Alors il y a 2000 AMAP en France, ce qui représente à peu près 250 000 adhérents. Comment ça marche concrètement si Julia Foyce a envie de s'inscrire à une AMAP, comment elle fait ?
Alors, est-ce que
ça a l'air contraignant ? Ça a l'air contraignant.
On utilise en général Internet, bien sûr, donc soit le site national Miramap ou ici près de Toulouse, on a un réseau Midi-Pyrénées qui est très développé aussi, qui va vous proposer des AMAP qui existent déjà. Et ensuite, vous allez vous rapprocher des paysans, aller les voir au moment du partage des récoltes et voir s'ils peuvent vous fournir une partie de leur production.
Ça a l'air contraignant. Ça l'est ou pas ?
Oui, il y a quelques contraintes parce que il faut effectivement être présent au moment du partage de la récolte. Pour nous, par exemple, c'est le jeudi soir. Donc, ben, ce soir, il faut que j'aille chercher mes légumes, mes fruits, ma viande, mon pain, etc. Mais en face de cette contrainte-là, il y a toute une série d'énormes avantages et c'est exactement tout ce qui a été décrit aujourd'hui par Perla, Sylvia et Thierry. On redevient acteur de son alimentation. On accepte cette contrainte parfois quand on va faire ses courses au supermarché, hein, on attend à la caisse, etc. Bah, je pense qu'on est capable de la prendre en compte pour soutenir un paysan.
Thierry Gazemont, Laurent Gazemont. Il y a un papier.
C'est Laurent, moi.
Il y a un papier dans votre hors-série sur
les AMAP.
Tout savoir sur les AMAP.
Oui, parce que on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. Il y a des contraintes. La plus importante, c'est effectivement d'aller chercher son panier à jour fixe. Il y a une autre contrainte qui, elle, à mon avis, très pédagogique et très agréable. C'est de manger ce qu'il y a. Mmh. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Mais quand on est membre d'une AMAP, on découvre par surprise un peu ce qu'il y a dans le panier. Et on cuisine ce qu'il y a dans le panier. Et ça, c'est quand même... moi, je mettrais ça comme une contrainte très positive.
Flavia Mazelin.
Alors, c'est vraiment une contrainte presque artistique, ouais, j'allais dire. C'est C'est-à-dire que plus on a des contraintes, plus on est libre. Et je suis tout à fait d'accord, plus on est créatif. Et faire avec ce qu'il y a, eh ben, ça stimule vraiment notre inventivité. Et
en plus, rien n'empêche d'aller acheter des carottes en plus. Hein.
Merci beaucoup, hein, Cyril Martini. Perla Savant-Schreiber, pour terminer cette émission, pour le plaisir, et vous ne sortirez pas de ce studio 521, si vous ne nous donnez pas votre recette de marquis au chocolat, marquis glacé au chocolat aux éclats de meringue. Voilà.
Le marquis glacé au chocolat,
c'est quoi,
éclats de meringue.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai eu la chance de le goûter.
Il est très facile à faire.
Comme, c'est la fête.
Comme toujours. Ah oui, alors j'ai une grande fierté quand je dis qu'il n'y a pas de sucre. Évidemment, il y a du chocolat et des meringues, alors ça va.
C'est quoi le secret?
C'est qu'il y a du chocolat, du beurre, tout ça de qualité, évidemment, première, mais je ne sais pas comment on est le cavour pour du chocolat. Enfin bon, j'apprendrai ça.
On l'est pas.
Voilà, si
on
peut et avoir des meringues écrasées.
Un chocolatier de proche de chez soi,
c'est voilà, qui le fait. C'est vrai, voilà. Et on est avec des meringues écrasées, on mélange tout ça, c'est très facile à faire, on met à glacer, on peut le faire 3 jours avant les fêtes ou un soir où on reçoit des amis, ça n'a pas d'importance, il peut rester glacé comme ça et on le sort 1 heure avant. Et on se régale.
Merci beaucoup, Perla Savant-Schreiber, vous l'aurez compris. J'ai adoré les recettes de ma vie. 300 recettes, 300 récits. C'est publié chez Flammarion. Merci d'être venu. Merci, Laurent Guèze. Le hors-série Balade gourmande du Parisien, manger bon et local en Ile-de-France est disponible en kiosque. Et merci, Flavia Mazelin-Salvi de Psychologie Magazine.
Et on a un hors-série Psychologie Magazine consacré à la cuisine.
Mais vous reviendrez pour
voilà,
ça. Vous
et
reviendrez
qui sort
pour ça.
Mi-octobre.
Merci
voilà,
beaucoup.
Voilà, j'ai quand même dit.
Demain, Grand Mets vous fasse loisirs et maison s'intéressera à quelques fruits de saison comme la châtaigne et la poire, des destinations pour un week-end dans le Puy-de-Dôme, cher à Julia Foyce.
Oui,
on verra comment préparer les plantes du jardin et du balcon à l'hiver. Vous pouvez poser toutes vos questions aux experts demain matin dès 9h au 01 45 24 7000.